premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux politiques de migration et ce matin, à chacun sa migration. Même si certains souhaiteraient l'oublier, tout dans l'actualité de ce matin nous rappelle ce qu'on a appelé pudiquement depuis plus d'un an la crise des migrants. Depuis l'annonce du démantèlement de la jungle de Calais par le ministre de l'Intérieur, jusqu'à la défaite électorale de la CDU d'Angela Merkel en Mecklembourg-Poméranie, de la renaissance temporaire du théâtre grec de Délos où a été montée ce week-end la tragédie Hécube de Ripide sur fond de crise des réfugiés, jusqu'au prix qui a été donné ce week-end également au photographe donc Haris Messinis, photographe grec de l'AFP qui a couvert l'arrivée des migrants à Lesbos et qui déclarait il y a 6 mois à peine lors d'un festival de journalisme en Italie.
When you live with these people and documenting their daily life,
parfois quand vous vivez avec ces gens, que vous documentez leur vie quotidienne et leur combat pour survivre, vous ne pouvez pas être extérieur à leur histoire. Voir des gens mourir en face de vous, spécialement des enfants, ce sont des événements qui vous hantent pour le reste de votre vie. Et Haris Messinis de rajouter qu'il y a désormais des endroits à Lesbos où il ne se retournera plus jamais tant ils sont justement hantés par cette tragédie migratoire. Toute la semaine, nous avons donc choisi dans la fabrique de vous parler d'histoire des migrations et ce matin de stratégie migratoire avec deux invités. Anouch Kunt est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Migrinter à Poitiers, et elle publie chez Belin bientôt dans un mois, Exil arménien du Caucase à Paris 1920-1945. Et nous serons également avec Nancy Green, historienne des migrations et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Mais avant de parler de migration, comme chaque lundi, retrouvons notre feuilleton dans la fabrique de la guerre froide, 41e épisode, proposé par Anaïs Quien et Françoise Camard.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které všichni přijde...
Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27e sieste KPSS.
La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Taiwan.
The defense of our own security and of the entire Western Hemisphere. And under the authority of the
United States. Dotyczyły one spraw bardzo ważnych. Rozmawialiśmy tak jak Polacy.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad. Grief? No, not yet, my dear. That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking.
How about me?
No, no. When you are fully ripe, my dear, those little flecks of brown appear.
Me?
You're most digestible, my friend. Delicious, too, from end to end.
Dans ce célèbre spot publicitaire des années 50, l'United Fruit Company fait la promotion des bananes qu'elle plante notamment au Guatemala. Mais les intérêts de cette entreprise américaine dépassent de loin la production de fruits. La pieuvre s'immisce par tous les moyens, depuis des décennies, dans la vie politique, économique et sociale du pays, pour assurer ses intérêts. En mars 1951, l'élection du président Jacobo Arbenz Guzman va changer la donne. Alexandre Rios Borde.
Le Guatemala, c'est un pays qui a une économie peu diversifiée, qui est surtout fondée sur l'exportation de produits, en particulier vers les États-Unis, et donc notamment de la banane, hein, via United Fruit. C'est un pays qui est une dictature dans les années 30-40, jusqu'en 1944. C'est Jorge Ubico qui est le dictateur local. Il est renversé en 1944 par des jeunes militaires, un peu dans ce qui est une tradition d'Amérique centrale, des jeunes militaires progressistes qui vont prendre le pouvoir, et puis qui instaurent un régime constitutionnel avec des élections. Au printemps 1950, c'est un de ces militaires qui est élu démocratiquement, qui prend le pouvoir, qui s'appelle donc Jacobo Arbenz, qui se trouve confronté à une situation de déséquilibre économique et de pauvreté auquel il veut mettre fin, quoi. Il veut engager des réformes économiques, sociales, et notamment la principale réforme dans ce genre de pays, évidemment, c'est-à-dire la réforme agraire. Il veut redistribuer les terres. Non pas sur un modèle communiste, mais plutôt sur un modèle populiste démocratique. La référence au moins mise en avant par Arbenz dans ces années-là, c'est Thomas Jefferson. L'idée, c'est de créer une république de petits propriétaires, de bons citoyens, parce qu'économiquement indépendants, et donc de promouvoir une stabilité économique à partir d'une meilleure redistribution de la richesse socio-économique. Le problème principal, du point de vue américain, en tout cas du point de vue d'United Fruit, c'est qu'une grande partie de ces terres appartenait à United Fruit. 55 000 acres de terres de United Fruit sont redistribués, ce qui représente 44% des terres confisquées. Et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à se tourner vers le gouvernement américain pour dire que leurs intérêts ont été effectivement spoliés au Guatemala et qu'il faudrait faire quelque chose. Alors, ce qui se passe, c'est que cette petite musique que chante United Fruit, elle va rencontrer, non pas beaucoup d'intérêt direct de la part du gouvernement américain, mais elle va rentrer en écho avec des préoccupations d'ordre de guerre froide, hein, au sein du gouvernement américain. Au départ, il n'y a pas de danger immédiat. Arbenz n'est pas un communiste. Ce qui va commencer à partir de l'hiver 1952, le printemps 1953, à changer la perception du gouvernement américain, c'est les communistes qui vont profiter politiquement de la réforme agraire. Parti communiste local, ça s'appelle le PGT. Ce sont eux qui sont sur le terrain et ce sont eux qui opèrent physiquement la prise de terre et qui donc se rendent populaires auprès des paysans. Et donc on a l'impression qu'ils gagnent en influence. Ça devient problématique, d'autant que la CIA considère évidemment comme une sorte de prérequis que le PGT, le Parti communiste local, est en lien avec Moscou et donc contrôlé par Moscou. Ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. Parce que par un fatalisme géographique, les Soviétiques ne s'intéressent pas tellement au Guatemala et à l'Amérique centrale d'une manière générale dans ce début des années 1950. Et donc c'est en août 53, pour la première fois, que la CIA reçoit un feu vert pour imaginer une opération clandestine visant à se débarrasser d'Arbenz. Donc on lance l'opération. L'idée générale, c'est qu'on doit créer les conditions d'instabilité suffisantes pour qu'une action paramilitaire parachève le mouvement et permette le renversement du gouvernement. La phase finale de l'opération se déroule en mai-juin 1954. Préparé par une offensive diplomatique internationale qui vise à transformer Arbenz en suppôt des communistes dans la région. Les opérations diplomatiques américaines créent un mécanisme en quelque sorte qui radicalise tendanciellement la position d'Arbenz. C'est-à-dire qu'Arbenz, par exemple, se sachant menacé, va chercher par exemple à se procurer des armes. Évidemment, il ne peut pas se tourner vers les États-Unis qui ont suspendu l'aide militaire au Guatemala, et donc il faut se tourner vers d'autres que cela. Et donc il va se tourner discrètement vers le bloc de l'Est, ceux qui peuvent lui fournir des armes. Et donc il va faire acheter discrètement des armes tchèques qui vont être transportées par bateau au Guatemala. Les Américains vont découvrir que ce bateau est en train d'arriver. Et donc ils vont évidemment publiciser cette information, dire « Regardez, un bateau arrive chargé d'armes clandestines tchèques. Les Tchèques, c'est les Soviétiques. » Donc en fait, Arbenz, évidemment, travaille avec les Soviétiques. Donc on est évidemment dans un contexte où plus Arbenz cherche à se défendre, plus il se marque comme un suppôt des Soviétiques, qui n'est pas par ailleurs. Et Arbenz, lui, va en quelque sorte laisser tomber. C'est-à-dire que face à la pression, il va démissionner et quitter le pays. Il jette l'éponge. Alors, pour le gouvernement américain, c'est une grande victoire. Ça change la manière que les Américains ont de penser les conflits dans le tiers-monde. Il y a l'idée qu'on a un peu une solution clé en main, en quelque sorte, pour les situations les plus graves. La CIA devient un peu centrale dans la politique étrangère américaine, en tout cas comme moyen en dernier ressort d'intervention contre les gouvernements récalcitrants. En 1957, Nixon va en Amérique du Sud, et à Caracas, on lui crache dessus. Les gens crient « on n'a pas oublié le Guatemala ». Et puis il y a une deuxième leçon du Guatemala, c'est pour les militants de gauche et pour les gouvernements de gauche, l'idée qu'il faut peut-être changer de stratégie, que jouer en quelque sorte la carte démocratique, que jouer la carte de la réforme dans un cadre constitutionnel face à l'impérialisme américain, c'est peut-être pas suffisant, ça marche pas. C'est en tout cas la conclusion que tire un jeune étudiant argentin de 26 ans qui a assisté au coup d'État contre Arbenz. Et ce jeune étudiant, il écrit à sa mère, il dit qu'est-ce qui s'est passé ? Ben Arbenz n'a pas eu la force ou la volonté d'armer le peuple pour résister. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Il faut changer de stratégie. Ce jeune étudiant, il s'appelle Ernesto Guevara et il saura mettre à profit cette leçon dans d'autres conflits qui l'opposeront aux États-Unis.
Voilà pour ce 41e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, qui, comme tous les autres, vous pouvez télécharger et écouter séparément du reste de l'émission de ce jour. Mais ce jour, nous allons parler de migration et en particulier de politique migratoire. Commençons par une archive récente. Elle date de l'année dernière. C'était en octobre 2015, sur les antennes de Radio France, Omar Waman suivait une famille syrienne depuis le sud de la Turquie jusqu'à l'Europe.
Nous allons suivre une famille d'Idlib, ville du nord-ouest de la Syrie. Il y a Maya, la maman, Wassim, le papa. Ils ont tous les deux 35 ans. Ce sont deux ingénieurs. Ils voyagent avec leurs deux enfants, Lotus, 3 ans et demi, et Mohamed Taim, 2 ans et demi. Avant de prendre le bus pour Izmir, une des principales portes d'entrée vers l'Europe, la veille, ils ont franchi clandestinement une première frontière, celle qui sépare la Syrie de la Turquie. Wassim.
C'était très difficile, nous avons couru très longtemps. Je ne conseille à personne de faire ce que nous avons fait, surtout à ceux qui ont des enfants. C'était une décision très difficile à prendre, mais il fallait partir, car en Syrie, il n'y a pas un seul endroit en sécurité. Il y a les bombardements, les barils d'explosifs, et puis on ne peut pas vivre sous le contrôle des groupes armés, comme le Front al-Nusra, le groupe État islamique, etc. Je suis ingénieur en informatique, je travaillais pour le gouvernement. Je suis très travailleur, j'avais de l'avenir dans mon pays. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'avenir en Syrie.
Et à peine arrivé à Izmir, Wassim va prendre contact avec un passeur recommandé par un membre de sa famille. Le passeur en question est un réfugié syrien qui nous rappelle immédiatement.
Allô ?
Et d'emblée, le passeur évoque le prix à payer pour la traversée. 1000 euros par adulte et 500 par enfant, soit 3000 euros pour toute la famille. Avant de nous demander d'aller nous équiper en gilets de sauvetage et autres pochettes étanches, nous allons passer 3 jours à l'hôtel car la météo n'était pas bonne.
Nous avons préparé nos bagages. D'un côté, il y a des sacs avec des choses très importantes à sauver, si jamais il arrive quoi que ce soit durant la traversée. Et de l'autre, des affaires moins importantes.
Donc vous êtes prêts ?
Yazine.
Yazine.
On est prêts, elle dit. Lotus.
Oui, nous sommes prêts.
Ça va ?
J'ai peur. J'ai très peur.
Puis, dans la soirée, nous avons été transportés vers une plage à 1 heure de route d'Izmir. Nous étions 50, dont 17 enfants, entassés dans une fourgonnette. Il est 1h du matin, nous arrivons sur cette plage où nous attend un bateau pneumatique et 4 passeurs turcs.
C'était il y a 1 an sur les antennes de Radio France, c'est déjà une archive, un reportage signé Omar Waman. Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Vous avez préparé cette semaine avec nous et bonjour à vous Nancy Green.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des migrations, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et bonjour à vous Anouch Kunt.
Bonjour.
Vous êtes également historienne chargée de recherche au CNRS et vous travaillez au laboratoire Migrinter, un laboratoire justement sur les migrations internationales à Poitiers. Alors Nancy Green, nous avons voulu mettre cette émission d'ouverture sur un aspect sous l'égide d'une question qui, d'une certaine façon, est une question qui nous apparaît plutôt neuve, mais peut-être pas pour vous qui êtes une spécialiste de ces questions d'immigration, d'émigration et de migration en général, c'est-à-dire la façon dont les acteurs des migrations, ceux qui partent, établissent des plans, établissent des projets, construisent un projet migratoire, comme le disent les géographes aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là. C'est une question récente, une question neuve qui se pose à ceux qui s'intéressent à ces questions de migration.
D'abord, je voudrais dire combien, en tant qu'historienne, ayant lu sur des récits de voyages, de traversées, de frontières, combien, je pense, l'historienne, comme tout citoyen, citoyenne, ces derniers temps, est frappée par l'émotion et du courage des individus qui décident de faire
partir.
Ce voyage, voilà, de partir. Et ce n'est pas nouveau dans le sens où tous les voyages ont toujours eu une part de courage, d'aventure et beaucoup de risques. Et aussi une question comment faire, sur laquelle on peut revenir. Mais qu'est-ce qu'on a fait, en fait, des historiens ou sur ce passé? Il est vrai que pendant longtemps, on s'est intéressé ou aux politiques d'immigration ou aux questions structurelles, comment les gens, pourquoi les gens sont partis. Et ce sont des questions toujours de l'actualité, pour des raisons économiques, pour des questions de répression ou d'oppression religieuse ou autre, pour des raisons de faim. de famine, pour tellement de raisons que les gens sont partis, que mais il y a toujours des contextes de guerre, etc. Donc il y a cet aspect structurel, on peut dire, qui donne des grandes contraintes. Mais après, c'est vrai, on commence à s'intéresser à savoir comment les individus font, quelles sont les modalités. Depuis un certain temps, quand même, on regarde à différents niveaux. On demande au niveau de la famille qui prend la décision, comment les décisions sont prises. Il faut se rappeler, tout le monde ne part pas.
Oui, tout le monde ne part pas. Il y a des choix à l'intérieur de la famille. Voilà. Et on sait, par exemple, pour avoir lu l'excellent livre sur la Shoah à Lens, signé Nicolas Mario et Claire Zalk, combien, dans un contexte dramatique qui était celui de la Shoah, les Juifs de Lens ont décidé, et comment ils ont décidé pour certains de partir, de quitter Lens, et d'autres d'y rester au risque d'être pris et d'être raflés et d'emmenés donc à Auschwitz. Anaïs Kien.
Oui, Emmanuel, vous avez prononcé ce terme de projet migratoire qui peut peut-être nous conduire à certaines erreurs. Projet Cilia, il n'est pas le même à Nouchkoun selon les conditions peut-être du départ. Un projet a l'air d'être quelque chose de très construit, mais parfois c'est une décision prise dans l'urgence, c'est une décision qu'on prend pour survivre. Et cela, ça modifie amplement aussi les conditions de l'imaginaire que se proposent les migrants au moment de leur départ ou de leur fuite.
Absolument. Il s'avère que j'ai étudié un groupe de réfugiés partis au moment de la révolution bolchévique. Donc le projet, c'est d'abord de sauver sa peau, de partir, de sauver les siens, de partir en famille, soudée, en ayant des ressources, une capacité d'action par la suite. Mais
c'est là que c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que dans votre projet, on voit l'autre partie du peuple arménien, celui qui a été largement exterminé par l'Empire ottoman. Et vous êtes intéressé aux Arméniens russes qui ne fuient pas par peur pour leur vie, n'étant pas des cibles ethniquement définies, mais qui partent pour des raisons politiques.
Absolument, ce sont des ennemis de classe, parce que j'étudie donc une élite, donc c'est l'ancienne bourgeoisie impériale, effectivement, qui est arménienne, mais qui se vit aussi comme une bourgeoisie russe, enfin qui se définit comme vraiment une élite d'empire, et qui, donc en tant qu'ennemi de classe, doit fuir sans attendre. Mais en réalité, c'est pas tout à fait comme je dis, c'est pas sans attendre, parce que quand j'ai voulu décomposer justement cette séquence du départ, en m'apercevant qu'en réalité, il n'arrivait en France que dans les années 21, 22, 23, 24, je me suis dit, bon, alors, il faut déplier toute cette séquence chronologique.
Donc qui m'apparaissait en 3 ou 4 années après la révolution elle-même, pour que ces gens commencent à circuler réellement.
Alors, c'est-à-dire qu'ils circulent avant, mais à l'intérieur de l'Empire. Donc, en fait, moi, au départ, je voulais vraiment m'intéresser à cette population, à son arrivée en France, et en voyant qu'il y avait ce grand décalage, c'est petit à l'échelle chronologique, mais quand même entre 1917 et l'arrivée en France en 23-24, il y avait vraiment une séquence à questionner et à déplier, et de voir justement pourquoi le départ ne se fait pas dans l'immédiateté, alors même que pour nous, historiens, l'issue paraît tout à fait claire, qu'elle était...
Tragique, sans discussion possible. Nancy Green, à propos de ces stratégies migratoires, qui, comme le disait Anaïs, ne sont pas toujours les mêmes selon qu'on est pauvre, chassé par la famine, chassé par la guerre, sa vie est en jeu ou qu'elle n'est pas en jeu, etc., etc.
Mais rappelons d'ailleurs même que la crise des réfugiés depuis un an et plus, c'était des gens qui étaient déjà partis de la Syrie avant. Ils étaient pour beaucoup dans les camps en Turquie ou en Jordanie. Et le moment du départ, c'était aussi différé par rapport à la guerre qui déjà existait depuis un moment, mais qui était liée aussi à des questions plus récentes aussi de l'alimentation dans les endroits où ils se trouvaient. Moi, je suis effectivement fascinée par la question quand est-ce que les gens décident de partir? C'est terrible. Comment est-ce qu'on... À quel moment on décide qu'on doit, dans le cas de nos jours, qu'on doit continuer la route parce qu'on pense qu'on ne peut plus retourner chez soi? Dans d'autres moments, comment est-ce qu'on prépare un voyage? historiquement.
La préparation du voyage, d'ailleurs, est très différente selon qu'on se dit qu'il y aura un retour prochain ou au contraire qu'on ne sait pas à quelle date on pourra y revenir.
C'est vrai, et c'est là où la question d'ailleurs de l'immigration en famille ou des hommes seuls est tout à fait intéressante, parce qu'il y a une question genrée de qui part quand et comment est pris une décision familiale ou non. Et là, les séquences aussi sont tout à fait intéressantes.
Oui, quand on regarde avec vous, Anoush Kunt, dans cet excellent livre qui apparaît d'ici un petit mois, donc chez Belin, dans une toute nouvelle collection qui s'appelle Contemporaine, Exil arménien du Caucase à Paris, quand on regarde avec vous, dans un chapitre que vous consacrez à cela, la façon dont des gens qui sont à peu près de même condition, des gens riches, qui vivent dans cette Arménie russe, donc de l'Empire russe, vont décider de partir? Est-ce qu'ils vont laisser un enfant sur place pour garder les biens? Est-ce qu'ils vont partir tous ensemble? Est-ce qu'ils vont s'arrêter à Constantinople? Combien de temps vont-ils rester à Constantinople? Pourront-ils prendre l'Orient Express pour arriver jusqu'à Paris? Vont-ils attendre que d'autres les rejoignent avant de repartir? Et dans une même famille, vous expliquez bien que sur une même photo de famille, deux couples d'un côté s'en vont pour Paris, dans la même famille, et le troisième s'en va pour Téhéran, où il va fonder une nouvelle dynastie, une nouvelle branche de la dynastie Anoush Kunt.
Alors ça, l'exemple que vous donnez, c'est en partie le reflet de la dispersion des biens familiaux, parce que cette élite était possessionnée aussi bien dans l'Empire russe qu'en Iran, et puis avait aussi, pour certains, des biens déjà en Europe. C'est sûr que ça déploie la géographie des possibles. Quand vous savez que vous êtes à Moscou, mais que vous avez quand même une villa au Caucase, et puis encore des biens à Téhéran, et puis parfois aussi donc à Genève et Paris, c'est sûr que vous avez tellement de cartes en main que plusieurs issues sont en discussion.
Ça n'est pas le destin des Arméniens survivants du génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, qui eux se retrouvent dans des camps au Liban ou ailleurs, qui n'ont aucun moyen de subsistance et qui attendent que quelqu'un vienne les chercher d'une certaine façon pour pouvoir quitter cette région.
Bah, absolument, c'est-à-dire que les déportés se retrouvent en majorité donc en Syrie, au Liban, comme vous le dites, dans des camps. Ils sont pris en charge aussi par diverses instances internationales ou par des associations arméniennes. Et certains ont vraiment perdu là leurs moyens d'action parce que de fait, ils n'ont plus rien. Enfin, ils sont totalement dépossédés. Ils sont
l'État turc s'est approprié.
Oui, alors ça s'est fait plusieurs fois, mais en effet, certains essayent de revenir chez eux, mais repartent. Enfin, parce que de fait, ils apprennent qu'ils ne peuvent plus rester. Donc, c'est aussi voir que il y a toujours l'espoir de rentrer. Ça, c'est quelque chose de très fort, et ce qui fait que les gens, autant que possible, ne s'éloignent pas de la
sphère géographique la plus proche.
Voilà, ils restent dans les pays limitrophes en attente d'une résolution. Et ça, c'est vrai pour les réfugiés syriens d'aujourd'hui, qui sont restés. Enfin, d'abord, ils sont de fait extrêmement nombreux en Jordanie et au Liban, donc ça dit quand même quelque chose. Et donc voilà, c'est l'espoir de pouvoir un jour revenir qui diffère aussi ce que nous, de loin, à l'issue du siècle, on peut voir comme une évidence de l'exil russe ou l'exil arménien comme quelque chose de linéaire et de tracé par avance.
Anaïs Kien.
Oui, c'est vrai que c'est frappant cette capacité que vous avez eue à analyser aussi ces temps d'attente, de changement, de recomposition finalement de ce fameux projet migratoire dont on parlait en début d'émission. Mais on peut saisir ces trajectoires à une échelle très... très concrète aussi, c'est-à-dire quand on a quelque chose, lorsqu'on a un peu de bien ou lorsqu'on n'en a pas, qu'est-ce que c'est que d'arriver dans un pays étranger, d'ouvrir un compte en banque, de louer un appartement, parce que même si on a quelques connaissances, malgré tout, c'est un pays étranger, Anoush Kunt.
Alors là, tout dépend pour les élites dont je vous parle, qui connaissaient très bien l'Europe avant la révolution bolchevique.
Qui faisaient parfois leurs études.
Qui ont fait leurs études absolument en Europe, qui voyageaient. Il faut imaginer que c'était des grandes familles itinérantes. Donc voilà, toute la famille passait des mois en Allemagne ou à Genève, enfin dans les villes thermales. Donc c'est pas tout à fait la même expérience et le même imaginaire qui se projette sur l'Europe occidentale et Paris que pour ceux qui n'ont jamais vraiment quitté l'Empire ottoman, par exemple, et qui se retrouvent à embarquer depuis le port de Beyrouth pour la France avec un contrat de travail, parce que c'est ce contrat de travail qui leur redonne un moyen d'action, c'est-à-dire le moyen de quitter un camp et de trouver du travail, donc
droits,
à l'étranger. Les droits vont venir petit à petit après. Pour l'instant, ils sont un peu dans une zone de non-droit quand même à cette époque, c'est-à-dire à l'issue de la Première Guerre mondiale, où on n'a pas encore redéfini le statut de réfugié apatride qui va être nécessaire, puisque là, on est face à une population justement de sans-droits, comme l'a très bien défini, expliqué Hannah Arendt. Hein, c'est sans-droits pour qui on va redéfinir un droit. Donc pour l'instant, effectivement, ça leur donne un minimum. C'est du bricolage, en fait. Donc ils peuvent, grâce à ce bricolage du contrat de travail, venir jusqu'en France avec un autre imaginaire vis-à-vis de ce pays que les élites, moi, que j'ai pu étudier de plus près, qui, elles, arrivent en ayant déjà une connaissance des lieux et qui, du coup, imaginent moins que c'est irréversible. Parce qu'elle a déjà fait des allers-retours et donc elle s'imagine qu'un retour sera possible, comme par le passé.
D'ailleurs, les pages où vous décrivez le moment où certaines mères de famille décident de travailler en voyant que cette fortune initiale qui leur avait permis de migrer relativement confortablement disparaît progressivement. Et ce sont les femmes qui décident de travailler et qui, là, transgressent d'une certaine façon un tabou de cette société bourgeoise où les femmes n'étaient pas corrompues dans le monde du travail.
Oui, absolument.
Nancy Green, d'ailleurs, cette question des femmes est très intéressante dans cette façon d'imaginer le projet migratoire. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait avoir une approche de genre de ces questions-là. Dans son travail, Anouch Kount nous explique combien la ruse, en particulier pour pouvoir passer les frontières, a pu être utile parfois parce que, eh bien, quand on était une femme, on avait peut-être moins de chances d'être fouillée et qu'on pouvait parfois transporter des diamants quand on était une famille riche du Caucase, d'Arméniens riches du Caucase. De toute façon, ce que dit dans son livre « Exil arménien » Anouch Kount, c'est qu'elle cite un proverbe russe: « Mieux vaut avoir 100 amis que 100 roubles quand on veut immigrer », parce qu'en fait, il y a toujours à se faire des amis pour pouvoir trouver des solutions. Et Georges Yakovlev, qu'elle cite également, disait « Les polices du monde entier croient indispensable de rendre les déplacements des sans-patries aussi difficiles que possible ».
Oui, mais en fait aussi, je pense, et je suis entièrement d'accord, que ça fait une grande différence quand on a des moyens et qu'on n'en a pas. Donc que les migrations d'élite et des migrations de gens sans moyens ont des différences importantes. En même temps, je reviendrai aussi à cette question de femmes, mais en même temps, je pense aussi, par exemple, aux Italiens au début du siècle, ils sont partis aux États-Unis ou en Argentine, à New York ou à Buenos Aires, et qui, eux, ils pensaient aussi revenir. Ils pensaient gagner assez d'argent pour retourner chez eux, pouvoir acheter de la terre. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des choses en commun entre ceux qui, une élite vraiment, enfin, comme on dirait aujourd'hui, transnationale, et aussi des pauvres transnationales il y a un siècle, qui avaient aussi des projets de retour et des divers points de chute. Et comment ça se faisait ensuite, c'était aussi les communautés eux-mêmes qui s'entraidaient pour avoir à la fois de trouver des moyens, de trouver des logements, pour trouver
des façons d'accueillir les nouveaux arrivants.
Exactement. Donc, c'est un peu pareil dans les deux cas, mais, et on peut revenir aussi à la question du genre, ce qui est intéressant, c'est quand les gens partent en fait en famille, c'est une chose. Quand ils envoient d'abord l'homme, ensuite la femme qui suit, ça veut dire aussi qu'il y a des années parfois de séparation, après des retours, rencontres un peu
des troublées, reconfigurations.
Des reconfigurations,
de
voilà.
Coup, notamment.
Donc c'est pas évident, c'est pas évident.
Oui, ça n'est pas évident. Et d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont aperçu, cette question des stratégies dont on parle depuis le début de cette émission avec vous deux, Anouch Kount et Nancy Green, au moment où l'année dernière, des reportages nombreux nous ont montré ces gens qui remontaient par la Grèce, puis par les Balkans, vers l'Allemagne qui avait ouvert ses frontières. Olivier Poujade était très exactement, il y a un an, puisque c'était le 4 septembre 2015, au micro de France Inter, dans l'émission Un jour dans le monde, et il nous racontait justement ces stratégies par téléphone portable.
Belgrade est un point stratégique aussi hein, pour les migrants. Une grande partie d'entre eux est réunie dans un parc près de la gare routière. C'est là qu'ils élaborent leur plan pour franchir la frontière hongroise. Tout est envisagé, y compris les smugglers, ces fameux passeurs, sur les conseils d'amis qui sont déjà passés. Azim a décidé de partir, lui, avec comme seul outil son téléphone portable.
So many before us go and told us how to do it.
Beaucoup l'ont fait avant nous et ils nous expliquent comment le faire.
We'll go under the sage.
On passera sous la clôture.
They send us navigation.
Ils nous ont envoyé les données GPS.
D'autres formules sont bien plus troublantes. Khan a payé 7000 dollars au début de son voyage et il se laisse guider. Tout est piloté d'Afghanistan, son pays d'origine, par le boss, comme il l'appelle.
Oui, boss, le boss en Afghanistan a un homme qui voyage avec moi.
He comes with me in the group.
Il est avec moi dans le groupe,
but I don't know him.
Mais je ne le connais pas.
He paid ticket in the bus.
Il paye le bus pour moi.
He called me,
il m'appelle pour me donner le numéro de ce bus et puis il me dit « Assieds-toi et bon voyage ».
La frontière se franchit par groupe de 5, 10, parfois 100 personnes, 500 euros par tête. Un trafic qui est aussi orchestré par la mafia locale, nous explique Zakaria.
Un Serbe envoie à la frontière un Syrien qui veut passer mais qui n'a pas d'argent. Il lui dit « Tu me ramènes une centaine de clients et je te fais passer gratuitement ». Le gros poisson, lui, ne fait pas la traversée. Il a des gens à sa solde pour le faire. Et pendant la marche, les réfugiés se font dépouiller. Ça s'est déjà produit. On connaît des gens à qui c'est arrivé. Ceux qui ont résisté ont été battus.
Un extrait d'un reportage de France Inter, c'était exactement il y a un an, en septembre 2015, il est signé Olivier Pujat, Nancy Green.
Toute l'imagerie et les récits de ce qui se passe depuis un an ou deux posent des questions aux historiens, et notamment pour moi deux. L'un, c'est sur effectivement la composition homme-femme, parce que les images qu'on a sont tantôt les images que d'hommes, qui passe, et puis il y a des moments où on fait des zooms sur les familles et sur les enfants au bras ou les enfants tout seuls, effectivement, qui nous émeut tous. Mais en même temps, donc, de savoir quelle est la composition homme-femme à différentes époques, de voir comment les migrations se font de différentes manières, je pense, fait beaucoup partie de ces questions de stratégie. L'autre question, qui est une question historique, c'est les passeurs et c'est l'argent et comment est-ce qu'on finance un voyage? Comment est-ce qu'on arrive d'abord à choisir où on va aller? Donc la question du choix, partir où, est déjà une question. Mais comment on le fait? On voit comment les technologies nouvelles permettent une certaine instantanéité de ces questions.
Une frontière ferme, on va de l'autre côté.
Et voilà, mais ce n'est pas... par le passé, c'était aussi des questions auxquelles étaient confrontés des réfugiés et des migrants.
Anaïs Kien.
Oui, il y a peut-être moyen, en tout cas je ne sais pas si c'est le cas pour le groupe sur lequel vous avez travaillé, Anouchkoun, ces Arméniens russes, de définir un budget pour pouvoir partir. Et là, on voit bien que ce départ ne peut pas être permis par toutes les bourses et pour toutes les familles.
Absolument, il faut avoir beaucoup d'argent pour partir et aujourd'hui encore, hein,
ne serait-ce que pour partir, là on ne parle même pas d'installation.
Ah oui, non, mais pour partir et pour assurer la traversée de façon la plus sûre possible et plus... par exemple, les groupes que j'ai étudiés partent avec une escorte, hein, donc parce que les routes sont extrêmement dangereuses.
On est dans des contextes de guerre civile,
de révolution. Puis la guerre, donc on est sur un front aussi militaire entre le Caucase russe faisait partie de l'Empire russe, donc camp ennemi de l'Empire ottoman. Donc il y a aussi cette guerre là qui n'en finit pas de se terminer. Et donc il y a différents niveaux de danger et donc une escorte. Donc cela, on voit d'ailleurs sur des photos d'archives. Ces grandes familles partent avec plusieurs hommes de main, armés, etc., des cartouchières, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour...
D'ailleurs, elles se font prendre en photo avant de partir.
Se font prendre en photo à ce moment-là, donc c'est aussi pour nous, un indice très intéressant des conditions concrètes hein, du départ. Et c'est vrai que... Je ne sais pas après comment on décide du budget, mais on prend autant que possible et quitte à coudre de l'argent, des diamants, des bijoux
dans les doublures,
donc les vêtements des femmes, des enfants, de tout ce qui peut être emporté l'est. Et aujourd'hui, ce qui me frappe avec, aujourd'hui donc les migrants ont aussi de l'argent sur eux, mais le moins possible, c'est-à-dire que l'argent de la traversée est géré autrement de nos jours, grâce justement aux nouvelles technologies, c'est tout à fait un autre réseau pour financer les passages. C'est-à-dire qu'on envoie l'argent en amont à un garant qui garde l'argent, qu'il informe le passeur que l'argent est bien en sa possession. Donc, à charge maintenant pour le passeur de faire son travail et d'emmener le migrant à bon port. Donc, ça évite aussi que le passeur prenne l'argent, s'en aille et puis, puis plante, ce qui arrive par ailleurs, hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça, c'est de payer en différé les traversées grâce à des grands transferts d'argent, mais du coup, ça se fait
de vraiment avec dématérialisé,
puis à des milliers de kilomètres de distance, parce que le garant de quelqu'un qui part, par exemple, de Turquie ou du Proche-Orient peut se trouver en Angleterre. Donc vous voyez que et l'idée, c'est que le migrant lui-même ne trimballe pas 10 000 euros dans ses doublures.
Il y a une autre difficulté en vous lisant, et ça c'est très intéressant quand on lit votre livre « Exil arménien » Anouch Koun, qui paraîtra dans un mois chez Belin, dans la collection contemporaine, c'est que Nancy Green nous disait il y a des difficultés pour l'historien. En tout cas, ces questions de stratégie migratoire posent des questions à l'historien. Et vous dites en fait, oui, ça pose des questions, d'autant que quand on est historien, on travaille sur des périodes lointaines, et que les mémoires, l'imaginaire est venu se plaquer sur ces histoires, et qu'il y a des histoires familiales qui sont totalement réinventées, et que l'historien doit faire son chemin dans ces réinventions de trajectoire pour pouvoir aller voir les documents. Et grâce à l'OFPRA, vous avez vu beaucoup de documents originaux d'arrivée d'Arméniens sur le sol français, pour pouvoir comprendre quelles ont été les étapes de ce chemin qui n'ont pas été forcément racontées par les acteurs eux-mêmes.
Absolument. La mémoire familiale s'est cristallisée autour de ce qu'on peut appeler un récit-conte. Donc avec des passages remplis de frayeurs et puis des moments plus merveilleux en quelque sorte. On a surmonté le danger grâce à un bijou. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui tient du conte et de l'imaginaire enfantin aussi, qui, à mon avis, dit bien comment on a raconté ces histoires-là aux enfants ou à l'intérieur des familles pour aplanir la réalité du traumatisme aussi. Et
la médiocrité du voyage parfois aussi.
Oui, alors difficulté. Bon, encore une fois, ceux que j'étudie ont connu quand même des conditions d'exil concrètes un peu meilleures que et sans comparaison avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'effectivement cette mémoire a repris le
dessus.
Nécessite aussi pour l'historien d'aller au-delà des émotions et de reprendre toutes les stratégies et les
C'est une question que vous vous posez aussi, Nancy Green, en tant qu'historienne de ces migrations. Comment redonner de la capacité aux acteurs d'avoir agi en connaissance, mais aussi c'est reconnaître qu'ils ont menti, qu'ils ont eu des faux papiers. Évidemment, dans un contexte contemporain, c'est mal vu, mais néanmoins, il faut bien reconnaître que c'était la seule solution pour certains d'entre eux pour pouvoir s'en tirer. Il faut réintégrer le mensonge, par exemple, dans le parcours migratoire, ce qui est peut-être parfois difficile, et difficile pour l'historien à quelques décennies ou quelques siècles de distance, Nancy Green.
L'illégalité des migrants tient aux règles qui sont imposées par les États. Et à tout moment, quand les États ont commencé à imposer des difficultés pour l'entrée, puisque le départ, en général, c'était pas toujours évident, il y a des pays qui ont interdit le départ, mais au XXe siècle, c'est plutôt un problème d'arriver et d'entrer dans un nouveau pays. Et à partir du moment que ces règles sont de plus en plus, ces politiques-là sont de plus en plus renforcées aux États-Unis, à partir des années 1920 jusqu'aux années 1960, jusqu'à, en France plus tardivement, ces règles-là, c'est ça ce qui crée l'illégalité. Ensuite, effectivement, on est absolument encore en admiration devant les individus qui trouvent des moyens de contourner des règles. Et historiquement, ça a été très, très fréquent.
Anaïs Kia.
Oui, et d'ailleurs, on a de multiples récits de certains agents de l'OFPRA qui racontent à quel point les conditions d'entrée génèrent une fable administrative qui est reprise par les réfugiés qui arrivent et qui ont appris cette fable pour être un réfugié acceptable par l'administration qui est censée se saisir de leur arrivée.
Nancy Green.
Et même des choses plus anodines, mais depuis le début du siècle, les immigrés savaient où Qu'est-ce qu'il fallait dire quand ils arrivaient? S'ils arrivaient à Ellis Island ou ils arrivaient à une autre frontière, ils savaient quels étaient les métiers qui étaient mieux de dire qu'ils faisaient. Ils savaient aussi de essayer de montrer certains moyens. Parce qu'on sait, de toute façon, ce n'est pas les plus pauvres qui partent. Ils n'ont pas des moyens. Donc, même dans les périodes de grande migration de gens pauvres, ce n'étaient pas les plus pauvres qui partaient. C'était ceux qui avaient des façons, des réseaux et un minimum de moyens pour le faire. Et ils avaient aussi les récits pour le faire. Et ça se construit en route. Et puis les gens, ils se passent des tuyaux. Donc, c'est aussi les stratégies des individus qui est en jeu et qui marchent et qui ne marchent pas toujours.
Mais oui, est-ce que certains de vos personnages dans Exil arménien ont été pris à ce piège des doubles, triples, quadruples identités?
Ce piège ou cette astuce?
Ou cette astuce? Non, mais oui, mais c'est une astuce de départ et qui peut se retourner en piège contre eux à un moment ou à un autre.
Alors, plusieurs identités, oui, parce qu'en plus, on est face à une population d'empire qui était définie comme donc ressortissant de l'empire russe. Donc, il a fallu redéfinir les identités dans une logique ensuite républicaine à la française. Et donc, se dire si on était plutôt russe, plutôt arménien. Voir certains ont pris des identités d'emprunt pour faire la traversée en devenant temporairement persan ou géorgien. Mais il y a une grande différence quand même, c'est que personne ne leur demande rien finalement. L'administration française leur donne des visas. Et ça, c'est une énorme différence avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que tout, et même donc, les anciens déportés arméniens qui sont dans un état lamentable, arrivent en France avec des visas, légalement. Donc, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin non plus de se mettre en danger de mort pour traverser la Méditerranée et ensuite de raconter n'importe quoi, puisque de toute façon, la France a besoin d'eux et les fait venir comme main d'œuvre. Et donc, et d'ailleurs, il n'y avait pas d'investigation de leur histoire, vraiment. Ça ne préoccupe pas les autorités françaises à ce moment-là, qui sont dans une logique, finalement, d'ouverture des frontières. Ça c'est un moment qui ne va pas forcément durer. Et donc, ils sont pris dans ce mouvement-là. Et c'est une très grande différence avec tout ce qui advient par la suite, c'est de venir légalement.
On parle de représentation historique des migrations. Depuis quelques mois, tourne sur les réseaux sociaux une série de photographies, je voulais vous demander votre avis, Nancy Green, qui est censée représenter des migrants arrivant à Ellis Island en noir et blanc, tous habillés de leur habit traditionnel lituanien, caucasien justement, et certains d'entre eux ont même des fusils. Et sur certains commentaires de ces réseaux sociaux, les gens disent mais attendez, ça peut pas être des vrais migrants arrivant à Ellis Island, ils n'ont pas les fusils et les cartouches en bandoulière. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces photographies qui circulent et qui montrent justement ou veulent montrer la diversité de ces populations arrivant au tout début du siècle aux États-Unis à Ellis Island, Nancy Green?
Ben, il y avait effectivement une grande diversité qui sont arrivées, mais en même temps, ce qui est intéressant, moi, je pense à ces photos pour penser aussi aux femmes à babouchka. C'est-à-dire, il y avait des femmes, des têtes couvertes, et il y avait deux sortes de femmes dont on se préoccupait. Peut-être moins des femmes à babouchka, mais des femmes qu'ils pensaient, qui étaient seules et qui étaient soupçonnées de prostitution. Donc, il y avait toutes sortes d'images. Je dirais aussi une chose, les gens, ils s'habillaient quand ils arrivaient à Ellis Island dans leurs meilleurs habits pour quand ils devaient être photographiés à Ellis Island. Il y a toute une série de photographies de Sherman à Ellis Island qui sont tout à fait fascinants, où les gens sont effectivement en représentation de leurs origines.
Parce que justement, il faut pouvoir entrer dignement sur ce territoire américain. Oui. Merci à toutes les deux, merci à Anoush Kunt, et votre livre sort dans à peine un mois chez Belin, dans la toute nouvelle collection contemporaine de Belin. Donc ça s'appelle Exil arménien du Caucase à Paris 1920-1945. Et pour vous, Nancy Green, il y a entre autres Citoyenneté, Immigration, les politiques du départ que vous avez fait avec François Veil à l'école des hautes études en sciences sociales, ou encore le plus récent, c'est Les Américains de Paris, Hommes d'affaires, Comtesse et Jeunes Oisifs. Vous êtes intéressé, vous aussi, à ces élites transnationales. On parlait à l'instant même de représentation. Nous sommes avec vous, Mehdi Korchan, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes donc historien d'art et commissaire de l'exposition qui dure jusqu'au 26 septembre au domaine de Vizy, donc près de Grenoble, un musée de la Révolution française qui s'appelle Figure de l'exil sous la Révolution, qui travaille justement sur la représentation des exilés de la Révolution. Qu'est-ce que vous pouvez dire en supplément de ce qui a été dit et qu'est-ce que vous montrez aussi dans cette exposition donc à Vizy jusqu'au 26 septembre?
Alors, je dirais, pour faire la transition avec des idées que vous venez de développer, qu'il ne s'agit pas d'une exposition documentaire. On n'y voit pas de documents d'archives, de portraits d'exilés. L'approche de l'exposition est celle de l'histoire de l'art. Elle est aussi en grande partie mythographique, puisque des Lumières jusqu'à la fin de la Révolution, on a beaucoup exploité les figures mythologiques de l'Antiquité grecque et romaine pour évoquer l'exil contemporain. Parce que, tout simplement, l'émigration catholique et royaliste ne pouvait pas être représentée frontalement.
Donc on allait chercher des figures des exils romains ou grecs, par exemple, pour pouvoir figurer ce qui arrivait à ces contemporains de la Révolution française qui avaient fui parce qu'ils étaient des ennemis de la Révolution.
Exactement, c'était une stratégie de recourir à des thèmes qui détournaient un peu le propos. Je préciserai d'abord que nous commençons au temps des Lumières, au cours duquel l'exil est un objet philosophique. Il s'agit de dénoncer les excès du pouvoir arbitraire, et la figure de Bélisaire, le général byzantin, domine cette période jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. En revanche, sous la Révolution, on s'approprie d'autres figures qui interrogent plutôt le pouvoir républicain. Il y a par exemple le consul romain Caius Marius, qui a été élu par le peuple sept fois consul et qui, au temps de la guerre civile avec Sylla, a été proscrit et est revenu dans Rome pour se venger et déchaîner sa violence avec ses sbires contre ceux qui l'avaient proscrit. Donc les peintres interrogent également le pouvoir républicain à travers des figures de proscrits politiques de l'Antiquité.
Et donc, c'est une façon aussi de s'approcher à la fois des faits eux-mêmes, et vous dites que c'est une exposition d'histoire de l'art à Vizy, donc jusqu'au 26 septembre, mais plutôt de leur représentation, c'est-à-dire de l'imaginaire qui était porté par tous ceux qui avaient dû fuir le territoire français après la Révolution, Mehdi Korchan.
Voilà, tout à fait. Ce que l'exposition met en évidence, c'est la difficulté, voire l'impossibilité de représenter l'émigration contemporaine en tant que telle. Tout simplement parce qu'en France, elle était un sujet critique, tabou, elle est omniprésente dans l'esprit des Français, tout simplement parce qu'elle est une menace à la fois extérieure et intérieure.
Bien sûr.
Et les émigrés, eux, ont beaucoup de mal à se faire représenter en tant qu'émigrés, tout simplement parce qu'ils vivent cette condition comme un déclassement social. Mmh.
Oui, Mehdi Korchan, il y a un refus, voire une répugnance à se montrer dans cette forme de misère sociale, qui n'est parfois que temporaire, mais cette misère sociale de l'exilé qui vient d'arriver et qui attend de récupérer ses biens, qui attend peut-être de récupérer sa condition sociale. Et ce détour par l'antique permet à la fois d'escamoter cette misère sociale et aussi d'héroïser ces figures d'exilés, de grands proscrits politiques qui refusent finalement d'être représentés en tant qu'opposants, en tant que minoritaires dans leur propre pays.
Oui, alors ce que je préciserais, c'est que ces émigrés, dont le plus gros contingent se trouve à Londres, sont accompagnés d'artistes royalistes qui leur étaient attitrés. Le plus souvent, ce qu'ils commandent à ces artistes, ce sont des portraits qui les représentent tout simplement en buste, sans aucune allusion à leurs conditions. Ces émigrés, en revanche, s'ils commandent des tableaux d'histoire à ces artistes qui les accompagnent, ce sont plutôt des images des malheurs de la famille royale, parce qu'ils préfèrent avoir sous les yeux, dans leur appartement, des images de dévotion et des images qui exaltent leurs sentiments royalistes. Les figures mythiques de l'Antiquité grecque ou romaine On les trouve plutôt sous les pinceaux des peintres qui sont en France, qui sont plutôt des peintres républicains et qui cherchent à comprendre leur présent au travers du passé.
Merci Mehdi Korchan. Cette exposition s'intitule « Figures de l'exil sous la Révolution » et se tient au domaine de Vizy jusqu'au 26 septembre. Nous continuons et terminons cette émission en vous rappelant que nous faisons donc toute une semaine dans la Fabrique de l'Histoire autour de ces questions des politiques de migration et que demain, nous allons nous intéresser dans un documentaire signé Raphaël Kraft et Véronique Samouilov à Un si bel été, l'exode des Juifs de Saint-Martin-Vésubie en septembre 1943.
Alors la plaque dit ici, un millier de juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, aidés par les organisations juives, protégés par l'armée italienne d'occupation, ont connu un répit jusqu'au 8 septembre 1943, jour où s'est déchaînée la haine raciale de l'occupant allemand. Franchissant les montagnes dans un exode biblique, 350 d'entre eux furent repris par les SS et internés à Borgo San Dalmazzo, transférés par la Gestapo de Nice sur Drancy. Ils furent déportés au camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau, où presque tous furent exterminés. Souvenons-nous de ces victimes innocentes, de la cruauté de leurs bourreaux, mais aussi de l'humanité de ceux qui tentèrent ici de les sauver.
Je dois dire, dans cet enfer que nous avons vu, Saint-Martin était un endroit comme une oasis. Cette période de Saint-Martin, comme moi je me rappelle, était un arrêt. Okay. Même si nous ne savions pas le matin ce qu'elle nous apportait là. Mais vous savez, à ce temps-là, le temps n'avait aucune signification. On vivait le moment présent, tout simplement. Mais cette période de Saint-Martin, c'était un arrêt. On s'est regroupé des jeunes. Moi, je m'occupais des petits-enfants jusqu'à 11 ans. Alors, je leur racontais des histoires bibliques. Et jamais je finissais l'histoire pour qu'ils retournent, n'est-ce pas, entendre la fin. Et on était occupés entre nous. Il y avait une fraternité. Des jeunes, on ne se connaissait pas avant, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose, comment dire, un destin qui nous liait. Et c'était cette, moi, je crois, cet être ensemble. C'est répit, c'est une certaine sérénité qui nous a donné la force d'aller en avant et qui peut-être nous a donné la force de traverser, même si c'est venu tellement improvisément, vous savez, crac, mais on a eu un certain répit.
Un extrait du documentaire que vous allez pouvoir écouter demain sur France Culture dans la Fabrique de l'Histoire, Un si bel été, l'exode des Juifs de Saint-Martin-Vésubie en septembre 1943. Un documentaire signé Raphaël Kraft et Véronique Samouilov. Puis mercredi et jeudi, Anaïs.
Oui, mercredi, nous interrogerons de quelle façon on s'est posé la question des circulations des migrants au moment de la guerre froide. Comment notamment Vienne et Rome sont devenues de grandes plateformes, de grands hubs migratoires. Et puis jeudi, nous intéresserons aux traces des migrations, c'est-à-dire est-ce que l'archéologie peut retrouver ces traces, ces indices, parfois très évanescents, de mouvements de population massifs ou non.
Il y a eu, effectivement, il y a à peine 6 mois, un grand colloque international sur ce thème et nous en donnerons l'écho dans cette émission de jeudi. Merci à vous, Anouch Kount. Je rappelle votre livre « Exil arménien du Caucase à Paris » à paraître d'ici 3 semaines chez Belin. Merci à vous, Nancy Green, d'être venue pour ouvrir cette semaine et merci, Anaïs. On se retrouve après-demain. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Bruno Gagné à Fontagny était avec nous à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Vous pouvez tout écouter ou réécouter sur le site de France Culture www.franceculture.fr.